Bonjour et merci de m'accueillir à nouveau pour cette année universitaire nouvelle parmi vous. Et comme on vous l'a dit, le premier cycle de deux séances que j'inaugure aujourd'hui est consacré à la peinture en Russie au XIXe siècle. Le premier chapitre, c'est aujourd'hui, c'est grosso modo la peinture de la première moitié du XIXe siècle russe entre 1800 et 1860, comme le titre l'annonce, et la fois prochaine, nous regarderons du côté de la seconde moitié du XIXe siècle pour voir quels sont les artistes ou les courants qui s'illustrent à cette époque. On va donc commencer directement, peut-être d'ailleurs en éteignant les lumières, en regardant la Russie telle qu'elle se présente en ce début du XIXe siècle. Je pense que, avant d'aborder la peinture de manière directe et frontale, il est peut-être intéressant de voir ce que c'est que cette Russie au début du XIXe siècle. Après tout, ce thème de l'art et de la peinture en Russie au XIXe siècle n'est pas un thème très évoqué. Je crois qu'on connaît assez mal ce domaine et qu'on serait bien en peine de citer 1, 2, 3, 4 peintres qui sont illustrés en Russie à cette période. L'Occident méconnaît vraiment cette école pour une raison parmi d'autres, hein, qui est qu'il y a très peu de peintures russes hors de Russie, ce qui fait qu'évidemment on la connaît mal. Et je crois décidément qu'avant de dresser le portrait de cette peinture russe, il est bon de se rappeler un peu, rapidement, hein, de ce que c'est que la Russie en ce début du XIXe siècle. D'abord, je crois qu'il faut redire que la Russie, au début du XIXe siècle, est une sorte de pays neuf, entre guillemets, parce qu'évidemment, l'histoire de la Russie remonte dans des tréfonds très lointains de l'histoire, mais au début du XIXe siècle, la Russie est un pays neuf en ceci qu'elle a rejoint depuis peu de temps le concert des nations européennes occidentales, entre guillemets, modernes. Je crois d'ailleurs qu'un des éléments qui peut symboliser ce côté nouveau de la Russie, c'est la fondation de Saint-Pétersbourg. Vous savez que c'est au début du XVIIIe siècle, en 1703, qu'est fondé Saint-Pétersbourg. Et je vous montre d'ailleurs ici une vue d'un artiste dont nous redirons un mot tout à l'heure, qui s'appelle Alexeïev, qui nous montre une vue de Saint-Pétersbourg, en l'occurrence la Bourse et l'Amirauté, des bâtiments construits justement entre le début du XVIIIe et le début du XIXe siècle et qui montrent le caractère complètement nouveau, ville nouvelle, de cette cité qui est en fait le miroir de ce pays neuf qu'est en quelque sorte la Russie. La Russie, donc, au début du XIXe siècle, est, si j'ose dire, un pays qui, avec des lunettes occidentales, a, grosso modo, une centaine d'années. C'est un pays neuf. L'histoire de la Russie du début du XIXe siècle se ressent, bien sûr, de l'histoire de la Russie au siècle précédent. Hein, le siècle ou les siècles précédents ont été, par exemple, ceux de Pierre le Grand, hein, qui est, après tout, le grand tsar que vous savez. Et puis, au milieu du XVIIIe siècle, il y a évidemment Catherine II, dont je vous montre ici le portrait, par un artiste dont, là aussi, je vous dirai quelques mots tout à l'heure, qui est un des meilleurs portraitistes en Russie au XVIIIe siècle et qui s'appelle Rogotov. Catherine II, qui, après Pierre le Grand, va évidemment, je dirais, amener la Russie sur ses rails modernes auxquels je faisais allusion précédemment. Mais pour l'intérêt, la période qui nous intéresse, c'est-à-dire la première moitié du XIXe siècle, les deux souverains, les deux tsars qui règnent sur la Russie sont d'une part Alexandre Ier, dont vous voyez ici le portrait par Stouchkine, un autre peintre dont je vous dirai un mot un peu plus tard. Le règne de Nicolas Ier, c'est assez simple de s'en rappeler, correspond vraiment au premier quart du XIXe siècle. Hein, il commence en 1801, il se poursuit jusqu'en 1825. C'est, autrement dit, Alexandre Ier qui va connaître une figure que nous connaissons bien en France, qui est d'autre que Napoléon, bien sûr. Hein. Et Alexandre Ier est un personnage intéressant, d'abord parce que c'est un tsar qui est relativement libéral, un tsar assez modéré, c'est un réformateur, c'est donc ce que l'on pourrait appeler un moderniste. Vraiment, Alexandre Ier arrive au bon moment dans cette Russie neuve, c'est un tsar neuf, pourrait-on dire. C'est quelqu'un qui va également avoir des relations assez importantes avec l'Occident Évidemment, il y aura l'épisode plus conflictuel avec la France que nous savons, mais c'est un tsar particulièrement ouvert au monde occidental, qui va d'ailleurs développer certaines expansions territoriales. Notons quand même que la fin du règne d'Alexandre Ier se termine un peu moins bien que le départ, et au tsar libéral qu'il était, et je dirais réformateur moderne du départ, va succéder à la fin de son règne, au début des années 1820, un personnage plus autocratique, plus réactionnaire, plus autoritaire. Et après Alexandre Ier, un nouveau tsar monte sur le trône de la Sainte-Russie, pourrait-on dire. C'est son frère, qui s'appelle Nicolas Ier. Et Nicolas Ier, qui règne, lui, dans le deuxième quart du XIXe siècle. Les dates russes nous aident beaucoup. Hein, Nicolas Ier, le tsar dont vous avez ici l'effigie, commence son règne en 1825, juste après la mort de son frère, et le poursuit jusqu'en 1855. Vous voyez, cette première moitié du XIXe siècle correspond vraiment au règne de ces deux tsars pendant chacun 25 ans environ. Et Nicolas Ier, donc le frère du précédent, est un personnage qui va poursuivre le travail de son frère, mais dans la fin du règne de celui-ci. C'est-à-dire que lui va se montrer d'emblée très autocratique, très militaire. Le pouvoir de Nicolas Ier est un pouvoir très absolu. On a là aussi un personnage assez bureaucratique, hein, qui se base sur l'administration, qui gouverne d'une main de fer le pays. Donc on voit finalement, hein, que le paysage politique de la Russie en ce début du XIXe siècle, pour faire très vite, hein, s'assombrit, et de très modéré, libéral et réformateur, il devient vers le milieu du siècle plus, j'allais dire, plus sombre. Voilà donc quel est le paysage politique de la Russie à cette période. Peut-être est-il bon également de dire quelques mots sur la situation sociale de la Russie dans cette première moitié du XIXe siècle, qui est finalement le fruit de la Russie du siècle précédent, ou des siècles précédents. Et si l'on veut, en deux minutes, hein, synthétiser la dimension sociale de la Russie au début du XIXe siècle, je crois qu'on peut dire d'un mot qu'elle est extrêmement contrastée. La Russie, c'est socialement un territoire extrêmement clivé. C'est-à-dire qu'il y a, grosso modo, hein, si l'on caricature un peu, une classe dirigeante très riche, et face à ça, une classe, au contraire, très pauvre, dans laquelle le servage est encore largement présent. Je vous rappelle que le servage ne sera aboli en Russie qu'en 1861. C'est vraiment très, très tard. Cette Russie, cette société russe de la première moitié du XIXe siècle, vous le voyez, particulièrement clivée. Une société qui, sur le plan intellectuel, si on passe du social à l'intellectuel, est caractérisée, je l'ai déjà un petit peu dit, hein, par une grande ouverture du côté de l'Occident, et singulièrement du côté de la France. Cette ouverture que l'on voit très bien dans la première moitié du XIXe siècle est en fait un héritage du siècle précédent, hein, vous le savez, dès le XVIIIe siècle. C'est très vrai à l'époque de Catherine II, par exemple. L'intelligentsia russe est très ouverte et regarde beaucoup du côté de l'Occident. D'ailleurs, je vous ai parlé de la fondation de Saint-Pétersbourg tout à l'heure, et précisément, il y a, si je veux dire, beaucoup d'Occident et de France dans cette fondation-là. Et donc, c'est un des éléments majeurs, hein, qui peut-être caractérise la dimension intellectuelle de la Russie de ce temps. Et si l'on veut trouver peut-être une figure parmi d'autres qui résumerait le génie intellectuel russe du temps, au moins sur le plan littéraire, il faut évidemment citer Pouchkine. Alors, je ne vais faire que le citer, puisqu'il est au programme des conférences qui ont lieu ici et dont on vous a parlé tout à l'heure. Pouchkine, c'est un peu le génie littéraire russe du temps, un personnage très singulier et très clivé aussi, hein, vous le savez, dont la vie trop brève s'est arrêtée du fait, vous le savez aussi, d'un duel qu'il a opposé à un officier français qui, hélas, a tué Pouchkine. Mais Pouchkine est évidemment une sorte de héros romantique idéal, parfait, dont l'œuvre exemplaire est bien sûr très symbolique de cette Russie de la première moitié du XIXe siècle. Et j'essaierai de terminer ce rapide regard sur la situation en Russie dans la première moitié du XIXe siècle, en abordant cette fois des questions plus esthétiques et artistiques, et en disant que la Russie picturale, en ce début du XIXe siècle, au moment où nous abordons le sujet qui est celui de cette conférence, le paysage de la Russie picturale du temps est marqué par deux ou trois petits éléments, enfin, éléments, ils ne sont pas forcément petits, qu'il faut, je crois, bien avoir en tête. Le premier, c'est que la Russie est très marquée dans sa dimension picturale et esthétique en règle générale par l'opposition de deux courants fondamentaux qui sont ce que l'on appelle l'iconopis et la givopis. L'iconopis, c'est l'art de l'icône qui est, si j'ose dire, symbolisé par l'un des grands maîtres de la peinture médiévale russe, qui n'est autre qu'Andrei Roublev. Hein, vous connaissez évidemment cet artiste, ne serait-ce que par certaines œuvres cinématographiques qui ont pu être réalisées d'après lui. Roublev, qui est l'auteur, par exemple, de cette icône extrêmement célèbre, hein, présentée à la galerie Tretiakov, qui représente la Trinité sous la forme de trois anges. Roublev, qui, par cette icône, nous montre ce que c'est que cet art séculaire de la peinture russe, c'est-à-dire un art qui est complètement lié, d'une part, à la religion, avec l'idée que peindre, c'est prier, qu'en peignant, on prie. Il y a donc, je veux dire, une osmose complète, hein, entre le fait de peindre et le fait de prier. La religion est donc complètement liée à la peinture. Et puis le fait également que dans cette tradition très ancienne de la peinture russe, il y a une volonté à la fois de stylisation, de linéarité, quelque chose qui nous parle beaucoup aujourd'hui dans notre époque contemporaine, mais également largement d'abstraction. Hein. Les peintres russes médiévaux, comme les peintres occidentaux du même moment d'ailleurs, hein, ne sont pas du tout des réalistes. Ils vont au contraire vers une sorte de synthétisation, pour ne pas dire d'abstraction. Tout ça, ce sont les ferments, si j'ose dire, de ce qu'on appelle l'iconopis, c'est-à-dire la grande tradition de la peinture russe, très liée évidemment à l'orthodoxie. Et puis, face à ça, il y a une sorte de nouvelle peinture, ce qu'on appelle la givopis, qui est là une peinture bien différente, d'abord au niveau même de sa matérialité. La givopis, c'est une peinture qui, contrairement à l'iconopis, qui utilise des matériaux comme le bois, comme support, eh bien la givopis, au contraire, utilise généralement la toile. La givopis, c'est la nouvelle peinture, celle qui arrive en Russie à partir de la fin du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, et qui se développe au XIXe siècle, et qui utilise non plus le panneau de bois comme base, mais bien la toile comme support. La givopis, si vous voulez, c'est l'art nouveau, c'est la nouvelle peinture. Et cette givopis-là n'a pas trop de racines en Russie même. Au moment où, au début du XIXe siècle, on va réaliser les œuvres que je vais vous montrer, cette givopis, cette peinture nouvelle, n'a qu'une histoire assez courte derrière elle, une histoire d'une petite centaine d'années, alors que l'iconopis est, elle, enracinée dans les tréfonds abyssales, pourrait-on dire, de l'histoire esthétique de la Russie. Cette givopis, c'est donc la peinture moderne, et elle est, si j'ose dire, caractérisée dans cette Russie non moins moderne du XVIIIe et du XIXe siècle par deux écoles que l'on pourrait appeler, entre guillemets, académiques, dans le meilleur sens du terme, qui sont l'école de Saint-Pétersbourg, ou plutôt l'Académie de Saint-Pétersbourg, et l'Académie, ou plus exactement, l'École des Beaux-Arts de Moscou. L'une étant plus traditionnelle, celle de Saint-Pétersbourg, l'autre, notamment au début du XIXe siècle, plus novatrice, plus originale, pourrait-on dire, plus moderne, l'École des Beaux-Arts de Moscou. Donc, vous voyez, au moment où s'ouvre le livre de la peinture russe du début du XIXe siècle, il faut avoir en tête cela. La peinture russe, telle que je vais vous la montrer, c'est un art nouveau, un art récent, un art qui n'a pas beaucoup de racines derrière elle, qui se plante à côté de l'antiquité de l'iconopis dont Roublev est évidemment un exemple. Et cette nouvelle peinture, elle est désormais le fruit d'écoles implantées depuis peu dans le pays, à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Je soulignerai enfin un dernier point qui est important, qui est de souligner le fait que il y a aussi en Russie depuis très longtemps, parallèlement à, c'est du courant, le courant ancien de l'iconopis et le courant nouveau de la givopis, une peinture populaire, très ancienne, qui, évidemment, n'est pas du tout académique, et pour cause, dont je dirai un petit mot tout à l'heure, et qui existe et continue à perdurer dans cette Russie du XIXe siècle. Voilà, très rapidement, résumé, le portrait, fait en 10 minutes peut-être, hein, de ce que c'est que la Russie et les grandes tendances artistiques de cette Russie-là au début du XIXe siècle. Alors, commençons à ouvrir cette étude sur la peinture russe dans la première moitié du XIXe siècle, et puisque le début du XIXe siècle suit de peu la fin du XVIIIe, comme je crois la Palisse aurait pu le dire, je vous propose d'ouvrir un premier chapitre qui, de manière rapide, hein, va nous rappeler quels sont les peintres principaux qui s'illustrent en Russie à la fin du XVIIIe siècle, mais aussi dans les premières années du XIXe siècle. Le portrait est peut-être le domaine artistique le plus répandu dans cette nouvelle peinture russe telle qu'elle se développe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et si l'on veut essayer de développer, de montrer quels sont les artistes qui s'illustrent dans ce domaine, il faut d'abord citer Rokotov, dont je vous ai montré d'ailleurs une œuvre tout à l'heure, hein, le portrait de Catherine II, dont je vous montre ici le portrait de l'empereur Paul Ier enfant. Et je pense que ce qui vous frappe, comme dans le portrait de Catherine II d'ailleurs, c'est les dimensions très occidentales, hein, d'un portrait tel que celui-ci. Mais ces peintres-là sont très très proches, hein, de la peinture occidentale et en particulier de la peinture française du XVIIIe siècle. S'il n'y avait pas ici le cartel, on pourrait penser, en voyant cet artiste, à un peintre comme Drouet, par exemple, qui est un peintre qui s'illustre en France au XVIIIe siècle et qui a produit des portraits très proches de celui-ci. Mais je vous rappelle que Catherine II a beaucoup collectionné de la peinture, notamment française, du XVIIIe siècle, de la peinture contemporaine, autrement dit, qu'un certain nombre d'artistes français sont allés en Russie, quand ce ne sont pas des artistes russes qui sont venus en Occident. Bref, il y a chez Rokotov, par exemple, hein, une très grande influence de la peinture occidentale, que l'on peut d'ailleurs voir chez d'autres artistes, comme par exemple Levitsky, qui est avec Rokotov l'autre maître de la peinture et de la peinture de portrait dans cette Russie de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Une peinture qui est, là aussi, très occidentalisée, en ce qu'elle montre, vous le voyez, une sorte de légèreté, je ne dirais pas dire libertine, hein, des mœurs, que vous pouvez voir dans un tableau tel que celui-ci, qui nous montre un prince et une princesse en train de badiner dans la nature, une sorte de légèreté, d'insouciance du monde, qui est là aussi bien liée à ce que l'Europe occidentale peut produire à la même période. Une peinture comme celle-là ferait beaucoup penser peut-être à la peinture française, mais encore plus à la peinture anglaise. Hein. Pensez à Gainsborough, par exemple, hein, ou à Reynolds, qui produisent, à des périodes antérieures ou contemporaines, des œuvres assez proches de celles que nous propose ici Levitsky. Il y a vraiment une communauté occidentale, vous voyez, entre la peinture russe et la peinture l'Ouest, de l'Europe à l'époque. Vers la fin du XVIIIe siècle, va commencer à s'imposer un courant nouveau en Russie, comme en Europe occidentale, qui est le néoclassicisme. Hein, vous le connaissez bien, par exemple en France, avec David, hein, le héros du néoclassicisme dans notre pays. Mais vous savez que le néoclassicisme, cette redécouverte de l'Antiquité et du XVIIe siècle, qui avait en son temps aussi redécouvert l'Antiquité, est à l'œuvre en Occident à la fin du XVIIIe, mais de la même manière en Europe orientale et en Russie. Et l'un des bons représentants de ces néoclassicismes qui sourdit dans la Russie à la fin du XVIIIe, c'est Borovikovsky, avec par exemple ce portrait de Maria Loupoukhina, un portrait très néoclassique, où d'ailleurs le personnage, le modèle, est représenté avec la mode du temps, qui est justement une mode très néoclassique, avec ses robes néo-antiques, et notamment néo-grecques, avec, vous savez, la ceinture très élevée sous la poitrine, hein, tout à fait typique de cette mode néoclassique que nous propose ici Borovikovsky. Ce qu'il nous propose d'ailleurs ici, et que l'on voyait déjà dans le tableau précédent, est un lien que l'on voit à la même période en Europe occidentale, entre le modèle et le décor qu'il y a autour. Ce lien nature, hein, on voit des arbres là qui se profilent à l'arrière du modèle, ce lien donc entre la nature et le modèle lui-même, qui est censé évidemment nous faire mieux comprendre ce que c'est que le modèle. Hein. On est en cette époque néoclassique, à la veille du romantisme, à un moment où les liens entre la nature et l'être commencent à être très travaillés, et on voit bien que c'est le cas dans un portrait tel que celui-ci. Le néoclassicisme, il apparaît de manière encore plus rigoureuse chez un artiste tel que Yegorov, dont vous voyez ici une œuvre qui date du début du XIXe siècle, mais qui est vraiment tout à fait néoclassique. Elle représente le Nolim et Tangere. Vous connaissez cette scène issue, bien sûr, du Nouveau Testament. Après la résurrection, le Christ, ou plus exactement la Madeleine, Marie-Madeleine, rencontre le Christ ressuscité dans un jardin. Elle le prend au départ d'ailleurs pour un jardinier. Elle s'aperçoit bien vite que c'est bien le Christ ressuscité, celui qu'elle n'a pas vu dans le tombeau qu'elle allait pourtant voir, mais qui est ressuscité et qui est là devant elle. Elle veut le toucher pour être bien sûr, n'est-ce pas, qu'il est nouvellement vivant, si j'ose dire. Vous savez que le Christ va lui demander de ne pas la toucher, de croire à sa résurrection sans la toucher directement. C'est le fameux « Nolim et Tangere, ne me touche pas », représenté dans ce tableau-là et qui est un grand classique hein, de la peinture, notamment en Occident, depuis le Moyen-Âge. Mais vous voyez comment cette vieille scène du tréfonds de la peinture chrétienne occidentale est traitée ici par Yegorov, l'un des meilleurs tenants de cette peinture néoclassique de la fin du 18e et du début du 19e siècle, avec le vocabulaire qui est le sien, c'est-à-dire vraiment néoclassique. Le Christ qui apparaît devant vous, c'est une statue grecque, hein, c'est l'Apollon du Belvédère. Les néoclassiques sont vraiment des néoclassiques en ce sens qu'ils se servent du vocabulaire antique pour réaliser leurs œuvres. C'est donc une sorte d'Apollon du Belvédère ici, transmis en Christ, qui nous est montré. Le néoclassicisme va d'ailleurs aussi véritablement envahir la société du temps. Je vous montre ici une œuvre de Tolstoï, enfin de l'autre Tolstoï. Hein. Il y a Tolstoï, celui dont on vous parle dans les cours sur la littérature russe, mais il y a l'autre Tolstoï, Petrovitch Tolstoï, qui est le peintre et le sculpteur aussi. Hein. Tolstoï est d'ailleurs peut-être plus sculpteur que peintre. C'est un artiste qui est très marqué aussi par le néoclassicisme. Vous voyez ici une très belle scène d'intérieur où de manière très néoclassique, avec la rectitude qui sied à ces amateurs de l'antiquité gréco-romaine, nous montre un intérieur qui lui-même est néoclassique. On a donc, avec un style néoclassique, un intérieur néoclassique qui nous est montré. Ou, comme vous le voyez, ce qui prime, c'est les références à l'Antiquité. Trône ici, à gauche, un buste d'Homère et un autre buste antique qu'on voit guère en contre-jour. Et puis, face à vous, deux moulages d'après des grandes sculptures antiques, notamment un Apollon au centre. Vous voyez, vraiment, l'Antiquité, le néoclassicisme, règne en maître dans cette Russie de la première moitié du XIXe siècle et de la fin du XVIIIe. Mais après avoir, avec cette introduction sur la fin du XVIIIe et le néoclassicisme, évoqué sur quelle base commençait le siècle, il faut maintenant aborder le premier véritable chapitre de cette peinture en Russie au XIXe siècle en évoquant le premier romantisme, ce qu'on appelle en tout cas le premier romantisme. Ça veut dire donc qu'il y en a au moins un deuxième, ou plus exactement un second, dont nous parlerons tout à l'heure. Le premier romantisme, il est illustré par des artistes qui sont, si je veux dire, 100% romantiques au sens traditionnel et occidental du terme. Par exemple, les romantiques le sont en Occident, comme en Russie dans ce premier romantisme, parce qu'ils sont allés, j'allais dire, aux sources de ce qui va permettre de développer leur inspiration, et en particulier l'Italie. Et s'il y a un lieu qui, en cette période, va générer chez les Européens un esprit romantique, c'est bien l'Italie. L'Italie qui, en fait, condense tout ce que les romantiques peuvent aimer et trouver. D'abord, il y a cette permanence hein, et cette proximité entre l'antique et le moderne. Et puis, il y a tout ce que les romantiques aiment, l'omniprésence de la nature, la présence de la ruine, par la ruine, la présence de la mort, n'est-ce pas, et de la finitude, qui est une grande thématique de l'Antiquité, du romantisme. La présence de l'histoire qui est partout présente. La présence du pittoresque. Le pittoresque qui, à Rome par exemple, côtoie les monuments antiques. Vous avez côte à côte à Rome les gens de la basse société pauvre, n'est-ce pas, qui mendient dans les rues, mais à côté de la colonne Trajane, hein, qui évoque l'un des plus grands empires qui ait connu le monde. Bref, cette sorte d'ambiguïté riche que propose l'Italie fait de ce lieu le paradis des romantiques. Pas étonnant donc qu'un certain nombre d'artistes russes soient allés en Russie pour regarder d'un peu plus près ce qu'elle proposait. Et le peintre emblématique de cela, c'est Tchédrine. Tchédrine, dont vous voyez ici une œuvre, est un peintre qui est né en Russie, mais qui a passé une grande partie de sa vie en Italie. D'ailleurs, tout peintre occidental qui venait à Rome au début du XIXe siècle, allez voir Tchédrine, hein, qui est vraiment, comme certains peintres français ou anglais établis en Italie, un des ateliers par lequel il faut passer. Hein. Tchédrine est très célèbre, hein, dans cette Rome et cette Italie du début du XIXe siècle. Et Tchédrine a réalisé de très nombreuses vues romaines, comme cette vue avec le château Saint-Ange à Rome, que je vous montre là. Vous voyez tout ce que je vous disais tout à l'heure, l'Antiquité, avec le mausolée d'Adrien à droite, le fameux château Saint-Ange, hein, qui côtoie le modernisme, vous voyez la silhouette de Saint-Pierre de Rome, des pêcheurs qui crèvent la faim au premier plan, mais qui sont là à côté de ces monuments illustrissimes, hein, la présence d'une nature un peu rase. Bref, il y a là tous les ingrédients qui font que l'Italie reste l'Italie et que les romantiques russes, comme les romantiques européens en général, aiment ce lieu. Bien sûr, Tchédrine est allé dans toute l'Italie. Il est allé à Naples, après tout, voir Naples, et vous savez la suite. Hein. Alors, pour un romantique, Naples est bien entendu une destination absolument obligée. Et vous avez là les mêmes ingrédients qui peuvent plaire à Rome comme à Naples. Avec en plus la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le volcan, n'est-ce pas, qui à l'arrière est là, prêt peut-être à exploser comme il l'a fait de la guerre, engloutissant Pompéi notamment, et qui fait peser sur cette ville, n'est-ce pas, une finitude, j'allais dire, irrationnelle, surnaturelle, qui ne peut que plaire aux romantiques, qui s'intéressent, comme Tchédrine, à épingler au premier plan tous les petits métiers napolitains qui sont là au premier plan. De Tchédrine encore, cette baie de Capri, une sorte d'Italie éternelle, parce que, après tout, le romantisme, c'est bien sûr, de manière un peu crispée, hein, le drame, mais d'une manière, j'allais dire, absolue, la félicité. Et finalement, avec cette vue de Capri, c'est une Italie idéale, sereine, paradisiaque qui nous est montrée. Vous savez, le romantisme, c'est quelque part l'art de l'excès et de la passion. Eh bien, l'Italie permet justement les deux. Et Tchédrine en est, vous le voyez ici, le chantre. Je vous montre ici une œuvre de Tchédrine, une des rares peintures russes de l'école romantique conservée en France, acquise par le Louvre il y a une trentaine d'années. Hein. Le Louvre possède à peu près pas de peintures russes du XIXe siècle. Ce tableau de Tchédrine est un des rares qui nous montre une terrasse à Sorrente, la ville d'ailleurs où Tchédrine s'est établi et où il finira ses jours. Et vous reconnaissez là aussi, un peu comme dans le tableau précédent, cette sorte d'idéal italien. Il fait chaud, mais pas trop. Il y a la musique, mais elle n'est pas assourdissante. Les femmes sont belles, les hommes aussi d'ailleurs. Enfin, tout est parfait. Décidément, le romantisme, c'est la passion. Dans ce qu'elle a de démesure, c'est ce qu'il y a de plus beau, et puis c'est ce qu'il y a de pire. C'est le drame de Pompéi, mais c'est la félicité de Sorrente. Tchédrine est là pour montrer ces deux extrêmes. Et d'ailleurs, si Tchédrine est un parfait exemple de ce romantisme qui s'exporte dans le berceau même, pourrait-on dire, du romantisme, c'est-à-dire dans l'Italie, il est d'autres artistes védutistes, c'est-à-dire qui s'intéressent au paysage tout aussi romantique et appartenant à ce premier romantisme-là, et c'est le cas d'Alexeïev. Alexeïev, que je vous ai déjà montré tout à l'heure à travers la vie de Saint-Pétersbourg, et que je vous resserre ici avec cette vue de la place Rouge à Moscou. Vous voyez ici comment Alexeïev, qui lui nous propose une vue d'un lieu russe, s'il en est, hein, finalement le fait avec les mêmes armes que Tchédrine en Italie. C'est-à-dire qu'il nous montre ici la grandeur, n'est-ce pas, de ces bâtiments russes pluriséculaires, à côté d'un petit peuple qui n'est pas toujours très luisant et qui apparaît dans ce pittoresque au premier plan. On a là, de la même manière, une sorte de vue idéale qui nous enseigne les grands motifs que le romantisme sait retenir. Alexeïev, c'est le grand védutiste, c'est-à-dire le faiseur de grandes vues, de paysages, hein, romantique russe, de la première moitié du XIXe siècle. Toujours pour illustrer ce premier romantisme, il faut citer l'une des figures importantes, mais cette fois dans un deuxième domaine, qui est essentiellement d'ailleurs celui du portrait, qui est Kiprensky, dont je vous ai montré tout à l'heure déjà un portrait, hein, vous vous souvenez peut-être. Kiprensky, c'est un des grands artistes du romantisme russe. Il est d'ailleurs au niveau de sa vie même, et cet autoportrait, je crois, le suggère assez bien, un homme absolument romantique. La vie de Kiprensky n'a rien à envier aux romans les plus romantiquissimes de l'Europe du temps. Sa vie est une sorte de marche vers le malheur. Hein. C'est un homme impulsif, je crois qu'on le voit dans cet autoportrait, que Kiprensky. C'est un homme très sensible, un homme excessif. C'est vraiment un romantique, un homme qui sait s'enthousiasmer, mais qui sait également, j'allais dire, se plomber. Une vie qui va être très chaotique que celle de Kiprensky, avec une enfance très chaotique, qui a passé d'ailleurs une partie de sa vie en Italie. Il s'est notamment bien intégré à la communauté russe de Rome, mais quelqu'un qui va revenir plus tard en Russie avant de repartir vers l'Italie, mais quelqu'un qui aura encore une fois une vie assez complexe. Il va quitter l'orthodoxie, devenir très dépressif. Enfin bref, Kiprensky, c'est le héros romantique dans sa vie comme dans sa peinture. Et cet autoportrait, je crois, nous montre bien les propensions du personnage à être ce romantique-là. Je vous montre ici un autre portrait du Kiprensky qui représente Adam Schwalbe, qui était tout simplement le beau-père de Kiprensky. Et je crois que cette peinture montre bien le genre de travail qui est celui de cet artiste. Il nous montre ici son beau-père, mais vous voyez que ce portrait n'est pas trop riant. Au-delà du physique même du personnage, vous avez là une pose qui montre, je dirais, à l'extérieur, l'état d'âme intérieur du personnage qui est le modèle du peintre. Hein. Le regard, vous le voyez, est soucieux. On a l'impression d'une personnalité torturée, passionnée. En plus, pour, j'allais dire, souligner le trait, le fond est sombre. On a vraiment là une sorte d'expression des passions, de passions profondes, pas forcément très gaies, comme vous le voyez ici. C'est vraiment une des expressions du romantique, du romantisme, où la psychologie fait l'œuvre d'une certaine manière. On retrouvera d'ailleurs cette volonté-là dans cette autre œuvre de Kiprensky, décidément le grand portraitiste du premier romantisme russe, qui nous montre ici un jeune aristocrate, enfin un jeune grand bourgeois, et qui pourrait servir de couverture à tous les romans romantiques du temps. Hein. Ce personnage que vous avez là, ce jeune homme, n'est-ce pas, au regard un peu halluciné, très pensif, à la messe avantageuse et un peu débridée, et un peu longue aussi, que j'en vis beaucoup. Ce personnage que vous voyez là est vraiment le héros romantique. Hein. Kiprensky est vraiment celui qui va savoir donner au héros romantique son expression artistique la plus juste. Romantique aussi, et cet autre portrait de Kiprensky, j'allais dire un peu moins virevoltant, habité, entre guillemets, que les autres, mais où on voit quand même chez Kiprensky un des thèmes que les romantiques, notamment dans le domaine du portrait, vont aimer illustrer, c'est-à-dire le lien entre le modèle et l'environnement dans lequel il se trouve. Vous voyez qu'ici, cette jeune femme avec un vague sourire un peu éthéré qui regarde dans le lointain un ailleurs. Cette femme qui n'est pas d'ailleurs de nous rappeler certains portraits que Ingres faisait au même moment. Hein. En France, à l'époque, regardez par exemple la qualité du rendu des étoffes. Hein. On a là vraiment des accents qui nous font beaucoup penser au maître français du portrait qui travaille exactement au même moment. Mais vous voyez surtout qu'il y a à l'arrière, à la fois ce verre avec quelques fleurs, dont une tombée, hein, comme par hasard, hein, qui viennent accompagner le modèle, et puis cette ouverture sur un paysage, bien entendu orageux, qui semble nous dire que derrière cette femme un peu rêveuse et au physique, j'allais dire, relativement avantageux et couvert de ces belles étoffes, il y a peut-être quelque chose de plus compliqué que ce vase avec une fleur tombée et le paysage orageux à l'arrière nous laisse deviner. Vraiment, nous sommes là devant un artiste du premier romantisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce premier romantisme russe, qui est vraiment illustré de manière remarquable par Tchédrine pour le paysage, voire Alexeïev, et surtout Kiprensky, va céder la place bientôt à une autre salve romantique qu'on appelle souvent le romantisme réaliste. Et ce romantisme réaliste est, j'allais dire, une affaire très russe. Autant les artistes que je vous ai montrés sont quelque part des artistes occidentaux, au sens large du terme, j'ai pu citer Ingres, par exemple, il y a un instant, autant le romantisme réaliste, entre guillemets, russe, est une affaire vraiment très russe, très singulière, très originale, qui fait que ces artistes du romantisme réaliste sont vraiment là assez différents de ceux que l'on peut trouver dans l'Europe occidentale du temps. Le premier que je voudrais citer de ces artistes du romantisme réaliste, c'est Tropinin. Tropinin, vous voyez ici son autoportrait. C'est un artiste, j'allais dire, dont le côté physique un peu débonnaire que vous voyez là correspond assez bien aux œuvres qu'il va réaliser. Et je vous les montre d'ailleurs sans attendre. Tropinin, d'abord, c'est notamment lui qui a réalisé ce fameux portrait de Pouchkine. Alors, je n'épilogue pas sur ce littérateur fondamental qui est Pouchkine, mais sachez que ce portrait célébrissime de Pouchkine est une œuvre de Tropinin, un artiste de ce réalisme romantique tellement russe. Mais venons-en peut-être à des œuvres plus symptomatiques de cet artiste, et en particulier la fileuse que vous voyez là. Vous y voyez finalement une peinture d'un genre assez nouveau qui mêle en fait deux genres. D'une part, le portrait, parce que la figure que vous avez là est une figure qui a posé devant Tropinin, mais en même temps, le but de Tropinin ici n'est pas, ou n'est en tout cas pas seulement, de nous montrer un portrait. Il est de nous montrer, avant un portrait, une fileuse, à moins que ce ne soit les deux. Et cette volonté de faire deux en un, de mêler ce qu'on appellerait dans les canons de la peinture occidentale et française la scène de genre d'un côté, c'est-à-dire une femme en train de filer, et un portrait de l'autre, le portrait de la femme qui est devant nous, ça c'est quelque chose que va beaucoup développer Tropinin et qui est très typique de ce réalisme romantique si singulier de la peinture russe du temps. Et tout comme vous voyez ici cette fileuse, ce portrait qui est en même temps une scène de genre, Tropinin va livrer de très nombreuses scènes, ou portraits, on ne sait pas comment les appeler, comparables, comme cette brodeuse de fil d'or. S'agit-il d'un portrait ou d'une scène de genre? C'est ni l'un ni l'autre, ou plutôt c'est les deux. C'est quelque chose de très singulier que l'on trouve guère dans la peinture occidentale du temps. Voyez que dans ces œuvres-là, Tropinin, qui mêle le genre et le portrait, se débarrasse un peu des tourments qui étaient ceux des figures qui étaient, par exemple, proposées par Kiprensky il y a un instant. Il y a ici la volonté chez Tropinin de ne pas nous proposer une sorte de pathos alourdi par un romantisme ténébreux comme celui qu'on nous a servi précédemment. On est là devant une scène, j'allais dire, plus sentimentaliste, où il y a une sorte de joliesse, où la figure, cette femme, est en train de broder de manière très accorte et très légère son tissu en question. Il y a, autrement dit, un message qui est un peu aseptisé, pourrait-on dire, chez Tropinin, bien plus que chez les artistes du premier romantisme dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a là une sorte de paix, de tranquillité, un message qui est beaucoup plus léger que chez les romantismes purs et durs de la tendance précédente, quelque chose comme une tranquillité, comme une paix, chez cet artiste Tropinin, qui d'ailleurs était à l'origine, c'est intéressant de le noter, un serf mais qui a été, si je veux dire, desservi, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé son statut de serf. Il a pu donc se lancer de manière plus libre dans la carrière artistique qui était la sienne, et qui va se faire connaître par ses œuvres très singulières, mêlant portrait et genre dans une ambiance sentimentale, j'allais dire faite de grâce et d'une certaine légèreté. Mais la figure emblématique de ce réalisme romantique dans cette Russie de la première moitié du XIXe siècle, c'est évidemment Venezianov. Je dis évidemment parce que nous en avons déjà parlé. Il y a quelques années, j'avais eu l'occasion de faire, à partir d'une œuvre, un cours sur Alexei Gavrilovitch Venezianov, qui est peut-être le grand peintre de la Russie romantique. Vous en voyez ici un autoportrait. C'est un personnage vraiment capital que ce Venezianov-là, assurément l'un des noms qu'il faut retenir pour la peinture russe de la première moitié du XIXe siècle. La carrière de Venezianov a commencé très tôt, très jeune. Hein, Venezianov se destine à la carrière de peintre. Très vite d'ailleurs, il a intégré l'Académie de Saint-Pétersbourg. Je vous ai dit tout à l'heure que la Jivopis, la peinture moderne russe, s'organisait autour de deux noyaux durs de la peinture officielle du temps, l'École des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, de Moscou, pardon, et l'Académie de Saint-Pétersbourg. Eh bien, Venezianov est un fruit de l'Académie de Saint-Pétersbourg. C'est quelqu'un, Venezianov, qui, assez jeune, va acquérir du côté de Tver. Tver, c'est une ville qui est entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Ça tombe bien pour Venezianov, qui est né à Moscou, mais qui a fait partie de l'équipe de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Et donc à Tver, Venezianov, dont la famille est originaire justement de cette cité de Tver, Venezianov a donc acheté près de Tver une grande propriété sur laquelle il y a des serfs. Hein, quand on achète une propriété en Russie, on achète les gens qui vont avec. Hein, on est bien d'accord. Hein. Et donc, Venezianov a acheté cette propriété. Il va décider là de fonder une école picturale qu'il décalque, si j'ose dire, un peu sur l'Académie de Saint-Pétersbourg. Et cette école, Venezianov va l'ouvrir non seulement à des populations libres, mais également à des populations serviles. Venezianov a en fait formé beaucoup de serfs qui, grâce à son entremise, sont non seulement devenus des artistes confirmés, mais ont pu quitter la servitude pour devenir des hommes libres. Il y a donc chez Venezianov une dimension, si vous voulez, d'engagement, on pourrait presque dire politique, sociale, qui est remarquable en même temps qu'artistique. Venezianov, il a réalisé, par exemple, des scènes d'intérieur. Je vous montre ici, à vrai dire, deux vues de l'atelier de Venezianov à Saint-Pétersbourg. Je vous ai dit à quel point Saint-Pétersbourg avait été la ville de formation de Venezianov. Et c'est intéressant de voir, dans cette vue d'atelier, comme dans la suivante, comment nous sommes là, dans ces milieux néoclassiques que je vous présentais tout à l'heure. Hein. Vous voyez que dans l'école, dans l'atelier de Venezianov à Saint-Pétersbourg, les modèles, ce sont les grands thèmes de l'Antiquité. Vous avez là toute une série de plâtres d'après l'Antique. L'Antiquité est vraiment le modèle de ces artistes. C'est vrai encore, dans cette deuxième vue due à un artiste qui est autre de Venezianov, mais qui nous montre l'atelier de Venezianov et qui nous montre la vie, pas trop de bohème d'ailleurs, qui est celle de ce peintre et de ses collaborateurs, de ses élèves, dans son atelier. Je crois que cette vie apparaît bien dans une œuvre telle que celle-là, où on voit par exemple au premier plan à gauche un jeune artiste qui est mollement couché sur quelques sofas, qui est en train de vaguement bouquiner tout en regardant un chien qui est auprès de lui. On voit bien, n'est-ce pas, l'ambiance d'un atelier très libre que Venezianov a installé chez lui. En tout cas, dans le travail de Venezianov, il y a d'abord la volonté de réaliser de très nombreux de ces portraits de genre, un peu dans la lignée de Tropinin que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire qu'il va réaliser de très nombreuses figures comme celles que vous voyez là, qui sont, comme pour Tropinin, à la fois des portraits et des scènes de genre. C'est vraiment deux en un, c'est quelque chose de très singulier. Il en a réalisé beaucoup. On voit là un exemple, cette paysanne à la faucille, qui à la fois, vous le voyez, est un portrait, il fait poser quelqu'un devant lui, sans doute une serve, mais puisqu'il la met dans un décor et qui lui fait porter une faucille, et qu'en plus, il se plaît à montrer les attributs singuliers, là, la coiffe que porte la paysanne en question, on est là dans quelque chose qui sort du portrait pour aller vers la scène de genre. Et vous remarquez que, comme dans les tableaux précédents de Tropinine, on a là une œuvre qui pourrait être romantique, appartenir à ce second romantique. C'est un romantisme un peu, déminé de ce pathos lourd que l'on voyait chez les premiers romantiques que j'évoquais il y a un instant. Voilà une autre de ces œuvres de Fenetsianov. Cette fois, on passe d'une jeune paysanne pour arriver vers une fileuse un peu plus mûre, hein, mais où on sent exactement les mêmes ingrédients. Un portrait qui est en étant une scène de genre où il y a la volonté de la part de Fenetsianov de faire du pittoresque. Ça, c'est une volonté romantique. La figure elle-même, avec sa coiffe, son habit, mais également la quenouille qu'elle porte, voilà autant d'éléments ethnographiques. Les romantiques s'intéressent, en Russie comme ailleurs, à cette idée-là, à cette idée, du pittoresque. Fenetsianov, toujours, avec cette œuvre qui nous montre à nouveau une paysanne. J'ai pas pu localiser, d'ailleurs, l'œuvre en question. Ce qui est intéressant quand même dans une œuvre telle que celle-là, c'est qu'on voit parfois que Fenetsianov dévie un peu du travail qui est le sien, c'est-à-dire ces figures emblématiques d'une Russie qui d'ailleurs prépare déjà le réalisme soviétique. Hein. Vous avez remarqué comment les deux figures que je vous ai montrées précédemment, notamment cette jeune femme qui a une faucille, prépare le réalisme soviétique tel qu'on va nous le servir au siècle suivant. Eh bien, au-delà de ces idées, j'allais dire un peu idéalisées, favorables, positives de cette Russie travailleuse, il y a quand même parfois chez Fenetsianov un retour, j'allais presque dire en arrière, entre guillemets, hein, vers le socialisme plus, vers le romantisme, pardon, beau lapsus, vers le romantisme premier que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un romantisme avec un pathos beaucoup plus fort. Vous voyez comment ici, cette vieille paysanne qui vous regarde et qui se prend la tête et qui fronce des sourcils, semble quand même nous montrer que tout n'est peut-être pas rose dont ce monde dessert et desserve de la Russie du 19e siècle. Donc vous voyez que Fenetsianov n'est pas un artiste unique, la pensée unique justement, qui nous montrerait qu'une Russie idéale avec de doux paysans qui chantent dans les champs malgré leur servitude en coupant des rameaux, mais il y a aussi une volonté parfois psychologique telle qu'on le voit ici ou là. Je vous montre le portrait d'un paysan qui est certainement un cerf. On croit lire, n'est-ce pas, dans les yeux de ce personnage, une sorte de désespoir dû à sa propre condition. Donc, Fenetsianov a ce génie d'appartenir à ce réalisme romantique que j'évoquais tout à l'heure, qui nous montre à la fois des types de paysans, très sereins, mais en même temps d'ajouter à ces ingrédients-là une Russie plus complexe que ces visages nous montrent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, chez Fenetsianov, une manière de se saisir de la culture russe traditionnelle. On l'a vu d'ailleurs dans les tableaux précédents, on le voit encore mieux ici, dans ce tableau qui nous montre le portrait de la femme d'un marchand. Beaucoup de femmes de marchands ou de marchands se font portraiturer à cette période, une manière pour eux d'acquérir un certain statut social. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'ici, Fenetsianov a accumulé les détails vestimentaires traditionnels, notamment au niveau de la coiffe, que vous voyez, hein, qui est une coiffe très typique de la région de Tver, à laquelle appartient cette femme. Il y a vraiment une volonté pour lui d'intégrer dans la peinture savante de cette Russie moderne des éléments traditionnels de la Russie séculaire. D'ailleurs, si au même moment on regarde la peinture populaire en Russie du début du XIXe siècle, on trouvera par exemple ce portrait d'une autre épouse de marchand, mais dû à un artiste anonyme russe de la première moitié du XIXe siècle, dont vous voyez qu'elle porte la même coiffe que le modèle précédent de Fenetsianov. Il y a vraiment dans la volonté de Fenetsianov le fait de travailler la Russie traditionnelle, de ne pas du tout se couper de ses racines-là. Il est moderne, certes, mais il est également traditionnel. Il travaille l'héritage, et on le voit là. J'en profite pour dire que cette veine, entre guillemets, populaire, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, la peinture populaire, mais enfin, utilisons ce mot pour aller plus vite, cette veine populaire, elle est, mais je vous le disais en introduction tout à l'heure, très importante dans la Russie du XIXe siècle. Vous le voyez avec ce portrait, vous le revoyez dans un portrait que je vous avais déjà montré il y a quelques années quand on avait parlé de Fenetsianov. J'aime beaucoup ce portrait-là en question qui enfonce Botero bien loin, n'est-ce pas ? On a là une peinture bien plus ancienne, bien plus novatrice que Botero, qui est une sorte de plagiat anti-moderne d'ailleurs, hein, sans grand intérêt à mon sens. Vous voyez là, hein, quelque chose de beaucoup plus fort, hein, et qui date du début du XIXe siècle, et qui se saisit, n'est-ce pas, de la tradition russe pour nous proposer cette sorte de sphinx monumental qui s'impose et qui constitue, parallèlement à la peinture savante, un grand domaine de la peinture russe de ce début du XIXe siècle. Mais revenons à Venezianov, qui quelquefois va décider d'élargir la focale et qui, de ces portraits de genre qui nous présentaient en buste et dont je vous ai montré quelques exemples, va quelquefois agrandir en quelque sorte son travail en nous proposant ces figures, mais dans des paysages plus panoramiques. Voilà par exemple un jeune berger endormi qui, vous le voyez, nous montre non plus simplement ici cette fois le berger en buste, mais pris dans un paysage qui vient faire résonner le modèle avec le paysage qui est autour et qui est censé, bien sûr, j'allais dire, nous en dire long sur le personnage lui-même. Ce berger endormi, ce jeune pasteur rêve, si j'ose dire, dans un paysage idyllique. On aurait d'ailleurs la même chose dans cette autre œuvre de Venezianov, ce jeune berger, plus éveillé lui, mais qui, sous ce ciel bleu, malgré ses pieds sales, n'est-ce pas, vous voyez le détail réaliste, hein, qu'épingle l'artiste, nous propose une sorte de vue idyllique, pastorale, églogue, d'une sorte d'églogue, qui est bien celle de ce réalisme réaliste dont Venezianov est sans doute un des meilleurs représentants. On pourrait multiplier les exemples jusqu'à ce tableau intitulé « Ici, on attend toujours pour dîner ». On voit cet enfant boudeur avec son chien, qui attend aussi sa soupe d'ailleurs, ou plutôt la soupe de son maître pour en laper un peu sans doute. Bref, vous voyez là comment Venezianov, d'une manière délicate, humoristique parfois, peut intégrer ses figures dans des contextes plus élargis. On trouvera exactement la même chose dans cette jeune paysanne nourrissant un veau, où de la même manière, hein, Venezianov nous fait pénétrer dans l'intimité de la vie paysanne du temps, qu'il voit d'autant plus que tous ces personnages, il les a sous les yeux, dans sa propriété de fer, où il fréquente jour et nuit, pourrait-on dire, les paysans qui sont les siens, les serfs qui sont les siens, mais qu'il fait travailler dans l'école artistique qu'il a fondée. Quelquefois, de ce portrait de genre, Venezianov va directement vers la scène de genre. C'est le cas, par exemple, de cette peinture qui représente la matinée d'une propriétaire, où vous voyez une femme qui fait son courrier le matin, et deux servantes, des serves certainement, viennent lui proposer les services qu'elle attend. La scène de genre est donc, au-delà du portrait de genre, un des thèmes illustrés par Venezianov dans cette tendance socialiste romantique. Et du salon de la patronne, on va vers l'aire de battage des paysans serfs qui la servent justement. Voilà ici un très beau tableau de Venezianov qui s'appelle « L'aire de battage ». Un tableau d'ailleurs pour lequel Venezianov n'y est pas les mains mortes, hein, parce que pour réaliser le tableau que vous voyez là, il a fait tout simplement couper la paroi d'une maison agricole qui était sur sa propriété pour réaliser une espèce de grande perspective que vous voyez là. Et vous voyez bien à droite et à gauche, hein, les rondins des parois qui ont été coupés pour permettre justement à Venezianov d'avoir cette espèce de grande vision en perspective dans laquelle il a fait poser des serres de sa propriété pour montrer, tout comme il l'avait fait à l'extérieur tout à l'heure, cette fois à l'intérieur, les paysans qui sont les siens et qui illustrent bien cette sorte de réalisme de la ruralité russe du temps. Alors on n'en finirait pas de montrer des œuvres de Venezianov, qui est un artiste extrêmement prolifique. Il a réalisé de très nombreux tableaux, toujours sur le même thème, cette sorte de vision paysanne que l'on voit ici ou bien là, dans des tableaux qui, quelquefois, ne sont pas dénués de sens moral. Hein. Vous avez une sorte de parallèle ici qui est proposé entre cette mère qui allaite son enfant et ces sortes de saints monumentaux que vous voyez à l'arrière, qui sont en fait des meules de foin, hein, qui apparaissent à l'arrière et qui, à leur tour, vont donner, n'est-ce pas, à des populations sans doute plus animales qu'humaines, les nourritures qui vont être les leurs. Il y a une sorte de mise en parallèle de la fertilité maternelle et la fertilité de la terre. Il y a donc du moralisme aussi dans le travail d'Alexei Venezianov. Notez enfin que cet artiste a aussi développé, parfois, des grandes vues très ouvertes comme celle-là, qui sont des sortes d'élégies à la nature. Venedianov croyait en une Russie travailleuse, délestée du servage, mais qui faisait de l'agriculture, en quelque sorte, la base même de la société. Il le montre dans cette scène qui s'appelle « Le printemps » et qui remonte une femme labourant son champ et qui regarde du coin de l'œil son petit enfant qui est au premier plan. Hein. Il y a vraiment une sorte d'idéalisation dans le travail de Venedianov qu'on retrouvera dans un autre tableau du même qui s'appelle cette fois « L'été » ou « La moisson » où cette jeune paysanne accompagnée d'autres attend quelques instants, se repose entre deux coups de faucille, la faucille qui d'ailleurs repose comme une griffe, n'est-ce pas parfaite, sur le devant. Là aussi, il y aurait long à dire hein, sur cette faucille soviétique avant l'heure, d'une certaine manière. Mais Venedianov n'est pas le seul représentant de ce réalisme romantique. Il en est un autre très important qui s'appelle Grigori Soroka, dont vous voyez ici une œuvre. Soroka est d'ailleurs un personnage intéressant parce qu'il a fait partie des serfs élèves de Venedianov. Il a été élevé, j'allais dire, au rang de peintre, notamment du fait du travail exigeant de son maître Venedianov. Cela dit, être serf et être libéré n'est pas toujours simple. Soroka, qui a, à vrai dire, mal perçu quelque part son passage d'un statut à un autre, a eu une vie très complexe. Il a certes été aboli, mais il a terminé sa vie très mal, il s'est suicidé. Il faut savoir hein, qu'il y a quand même, hein, dans cette Russie, et dans la vie sociale de cette Russie, la première moitié du IXe, des lourdeurs terribles. Mais la révolution russe qui interviendra un siècle après en est évidemment l'écho un peu plus lointain. En tout cas, voilà le très beau portrait, très romantique et réaliste de Soroka, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé le portrait, tout comme son maître Venedianov. Voilà d'ailleurs un portrait d'Elisabeth Miliukov, qui a été une des conquêtes féminines de Soroka. Mais Soroka avait beau être un serf affranchi, il a voulu épouser Elisabeth Miliukov, ça n'a pas été possible, parce que la famille s'est opposée du fait de son récent statut de serf. Vous voyez qu'être serf libéré n'est pas toujours si libératoire que cela dans cette Russie qui ne transige pas avec le statut social. En tout cas, vous voyez comment dans ce beau portrait, il y a une dimension certes romantique, mais vraiment aussi de réalisme, tout ce que l'on a vu déjà chez Venedianov. Et d'ailleurs, Soroka a proposé d'autres portraits, peut-être encore plus interrogatifs, je dirais, que Venedianov, en ce sens qu'ils sont plus radicaux. C'est le cas avec ce jeune paysan dont le visage, qui nous dévisage justement, est comme pour nous interroger du statut qui est le sien. C'est surtout un jeune serf, une fois de plus, qui est ici représenté, et on voit mille questions, mille interrogations, je crois, dans un regard tel que celui-ci. Un réalisme social qui, vous le voyez, nous interroge de manière directe et, j'allais dire, presque brutale. Et d'ailleurs, Soroka va poursuivre dans la lignée de Venedianov. Vous voyez là un tableau qui s'appelle, comme par hasard, l'ère de battage et qui, d'une manière plus nocturne, reprend le thème de l'ère de battage de Venedianov, hein, dans un bâtiment qui est d'ailleurs quasiment le même et qui nous montre que l'élève va être vraiment l'émule de son propre maître. Soroka, qui d'ailleurs s'intéresse beaucoup à, je dirais, un des piliers de cette Russie du début du XIXe siècle, qui est l'administration. Il n'y a pas que la France du XXIe siècle hein, qui est, j'allais dire, mue par la présence, l'omniprésence administrative. C'est également le cas de la Russie du XIXe. Je vous disais d'ailleurs qu'un des empereurs, Nicolas Ier, s'était beaucoup basé hein, sur cette omniprésence bureaucratique que l'on voit dans une merveilleuse manière comme celui-ci, qui remontre un bureau dans l'état d'Ostrovski et qui nous montre le bureau d'un fonctionnaire, hein, complètement couvert de tout ce qu'un bon fonctionnaire doit avoir. Il n'y a pas de machine à écrire parce qu'elle n'existe pas, mais il y a tout le reste, hein, l'encrier, la plume, le papier et les tampons qui doivent tamponner tout cela. Hein. Et vous avez là, vraiment, au premier plan, une sorte de nature morte. Il n'y a quasiment personne, sauf un jeune homme qui est assis un peu plus loin. On a là une sorte d'éloge, n'est-ce pas, du bureau administratif qui est une des formes les plus essentielles de cette Russie du début du XIXe siècle. Et Soroka, tout comme Venetianov, va réaliser un certain nombre de ces grandes vues panoramiques, pleines de silence, mais j'allais dire pleines de bruit aussi, tels ces pêcheurs que vous voyez là. Des vues très, très apaisées, mais des vues qui disent beaucoup de choses, hein. Des vues très sereines, mais qui en même temps, j'allais dire, portent en elles-mêmes une sorte de pathos, même s'il est relativement muet, et que l'on peut retrouver dans d'autres tableaux du même genre, comme cette digue sur un étang, encore une fois des paysages très libérés, dont la partie supérieure, ça n'est rien, sinon un ciel bleu avec quelques taches de blanc qui sont les nuages, une partie inférieure avec très peu de personnages, des lieux très vides, comme encore cette autre peinture du même Soroka, la propriété d'Espace Coel et Pekino, près de Tver, d'ailleurs, où, de la même manière, on nous propose un tableau qui n'est rien dans la moitié supérieure, qui se condense à la moitié inférieure avec quelques personnages, quelques constructions et une grande mare, pourrait-on dire, un grand fleuve plat. Cette espèce de sérénité grandiose, c'est l'art muet de Soroka, mais qui, malgré sa muétitude, en dit, si j'ose dire, beaucoup. Soroka et Venetianov ne sont pas les seuls qui illustrent ce romantisme réaliste. Il y en a d'autres. Je pense par exemple à Alexei Vassilievitch Tiranov, dont vous voyez là une œuvre qui est un autoportrait. Tiranov, d'ailleurs, comme Soroka, est un élève de Venetianov, et on retrouve bien là l'écho de son maître dans cette œuvre, ou surtout dans celle-là, hein, qui nous montre un jeune berger au cornet. On a là l'écho du travail de son maître, enseigné par celui-ci dans son école de Tver. Tiranov, mais également Krylov, qui nous montre d'ailleurs ici un portrait du peintre précédent, Tiranov, endormi. Vous voyez qu'il y a chez ces peintres qui commencent très jeunes. Venetianov, il choisit ses artistes alors qu'ils ont 10-12 ans, et il les élève dans cette école picturale qu'il a fondée. Et il prend encore une fois des serfs autant que des libres. Et ce qui est amusant, c'est de voir que les jeunes peintres entre eux vont se portraiturer eux-mêmes. Vous avez donc là, par Krylov, le portrait de Tiranov. Krylov, qui, ça ne vous étonnera pas, va également réaliser certains de ces grands paysages vides dont Soroka ou Venetianov nous ont habitués à voir l'extrême poésie romantique, que vous reconnaissez bien dans ce beau paysage neigeux de Krylov. Bref, le réalisme romantique, c'est le deuxième fer au feu de cette peinture en Russie dans la première moitié du XIXe siècle. Mais il y a un autre domaine qu'il nous faut peut-être plus rapidement aborder, c'est celui de l'académisme. Parce qu'à côté de ces artistes, parfois jeunes et très novateurs, qu'on vient de voir dans ces deux tendances du romantisme, il y a aussi l'art académique tel qu'il est doctement enseigné à Saint-Pétersbourg comme à Moscou, dont Venetianov a su, si j'ose dire, se départir, mais que quelques peintres comme Brioulov vont par contre parfaitement illustrer. Brioulov, dont vous voyez ici l'autoportrait, un portrait également très romantique. C'est une sorte de Méphisto que ce Brioulov-là, qui est affalé, vous le voyez, sur une sorte de fauteuil rouge, comme quelques flammes infernales. D'ailleurs, de l'enfer, il est question dans certaines des grandes compositions de Brioulov, et notamment la peinture, peut-être la plus célèbre dans ce mouvement académique en Russie au début du XIXe siècle, qui s'appelle « Les derniers jours de Pompéi ». Ce tableau est un grand tableau monumental, un peu comme le sacre de Napoléon de David. C'est la grande peinture, l'une des grandes peintures du musée d'art russe de Saint-Pétersbourg. Il est vrai qu'il fallait de la place pour montrer ce dernier jour de Pompéi, qui nous montre l'éruption du Vésuve, avec la foule qui s'enfuit, les bâtiments sur la droite qui s'écroulent. On voit bien là le drame que vit cette cité qu'est Pompéi. On a là, donc, vous le voyez, une peinture qui, loin des tourments romantiques et de la modernité romantique, s'inscrit dans la droite ligne du néoclassicisme néo-antique dont on a vu les fondements dans la peinture russe comme européenne de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. On est là en 1828-1830 chez un artiste qui continue sur la lancée du néoclassicisme pour proposer cette extraordinaire machine que d'aucuns auraient pu appeler pompier, mais qui est en fait une machine, j'allais dire, très académique, remarquable, et qui, malgré tout, avec son mouvement quasi opératique, nous propose une sorte de souffle qui, lui, est bien romantique. Et ce Brioulov-là, qui est finalement un des peintres officiels de la Russie dans la première moitié du XIXe siècle, va également s'intéresser aux portraits. Il réalise notamment cette Amazone, des portraits, vous le voyez, très élégants, qui nous emmènent loin des serres, au fin fond de la campagne de Tverine, hein, pour nous proposer à Saint-Pétersbourg cette élégante Amazone, où ici la comtesse Samoïlova, avec sa fille, qui sortent de quelques balles masquées pour respirer quelque temps à l'ombre d'une grande tenture. C'est vraiment un artiste officiel, académique, magnifique, hein, dans son travail pictural, que Brioulov, qui est un peu vraiment, je dirais, le revers de la médaille de Venetianov. On est là très très loin de ce réalisme romantique, pour aller vers un académisme officiel remarquable dans la qualité de son exécution. Ça n'empêche pas Brioulov d'aller quelquefois vers des parages qui pourraient nous rappeler Tropinine ou même Venetianov, c'est-à-dire avec ce Midi en Italie, car Brioulov a fait son tour d'Italie. Hein. Il est allé en Italie. Cette peinture plus insouciante, plus légère, qui montre une jeune paysanne suffisamment dénudée, en train de cueillir une grappe de raisin, vous voyez que l'académiste de Brioulov le mène dans des dimensions plus sociales, mais qui restent assez superficielles. Cette jeune femme, un peu gironde d'ailleurs, nous emmène bien loin des serres que Venetianov ou Soroka avaient su nous dépeindre. Brioulov n'est pas d'ailleurs le seul, hein, à travailler dans ce domaine de l'académisme pictural, dans la droite ligne du néoclassicisme. Bruni en est un autre, qui nous propose par exemple cette grande mort de Camille. Là aussi, vous avez un très grand tableau monumental, hein, et qui nous montre une scène antique. On voit bien comment ici, en 1824, Bruni chausse, si j'ose dire, les escarpins de la grande peinture européenne néoclassique, pour nous proposer, à l'égal d'un David, hein, quelques décennies auparavant, une grande scène morale tirée de l'histoire gréco-romaine. Et d'ailleurs, il récidive, Bruni, avec cette autre énorme machine du musée d'art russe de Saint-Pétersbourg, qui cette fois nous amène dans l'Ancien Testament, avec ce serpent d'airain, où on nous propose, avec la fougue romantique et opératique, hein, chère à Bruni, mais très néoclassique, un grand épisode de l'histoire de Moïse. Tout comme il y a des artistes académiques dans le genre de la peinture d'histoire, il y a également des artistes académiques dans le genre du paysage, qui proposent des paysages dans la droite ligne de la tradition paysagère telle qu'elle s'est développée en Occident depuis des siècles. L'un des meilleurs représentants est Michael Lebedev, dont vous voyez ici un intérieur de parc. Il y a également parmi ces artistes paysagistes mais académiques Vorobiev, qui lui va, si je veux dire, matiner ses vues de la nature que Lebedev nous montrait d'une manière très apaisée, de façon cette fois beaucoup plus dramatisée. Hein. Vous voyez ici un chêne foudroyé, on n'est plus dans le parc paisible de Lebedev, mais dans une mise en scène dramatisée de la nature, propre romantique, fût-il académique. Mais le grand artiste romantique, paysagiste et académique du XIXe siècle est certainement Ivan Aïvazovski, qui est vraiment, j'allais dire, le mariniste du temps, l'un des grands artistes maristes de l'Europe du XIXe siècle. Hein, lui, il a représenté la mer sous tous ses aspects. C'est la mer italienne dans le golfe de Naples, à la fois paisible et menaçante. Mais c'est également la mer à Constantinople, avec ce clair de lune. Vous voyez que Aïvazovski n'y va pas de main morte, n'est-ce pas ? C'est un romantique. Et que ce soit l'aube au matin, comme on vient de le voir auprès de Naples, ou l'un clair de lune à Constantinople, Aïvazovski ne ménage pas ses effets. C'est un artiste de la grande tradition académique, mais qui vraiment intègre le romantisme et donc tous les effets de la nature dans les paysages qui sont les siens. Et pour forcer encore le trait, il va volontiers, j'allais dire, muer ses paysages par des tempêtes. Hein. La neuvième vague, voilà le titre de ce tableau qui nous montre un pauvre esquif au milieu d'une terrible tempête. Hein. L'orage est là, il y a des nuages, la pluie peut-être. Bref, on est donc emporté dans cette espèce de nouveau radeau de la Méduse hein, que nous propose ici Iwaszowski et qui récidive parfois dans ses scènes de bataille navale, comme cet épisode d'une victoire de la flotte russe sur l'Empire ottoman à Sinope. Vous voyez que, j'allais dire, l'artillerie bien humaine prend le relais de la tempête qui déchaîne la nature et que nous avons vu dans l'œuvre précédente. Et je terminerai quasiment cette conférence par deux derniers courants qu'il me faut également aborder pour en terminer avec cette première moitié du XIXe siècle. Et le premier volet de cette conclusion, pourrait-on dire, tient en un nom qui est celui de Ivanov. Ivanov, c'est un artiste particulier, peut-être l'un des plus singuliers de cette peinture russe du début du XIXe siècle, et à vrai dire, on ne peut guère le classer dans aucune école. Voilà un portrait d'ailleurs post-mortem d'Ivanov qui nous montre ce personnage, j'allais dire, assez habité qu'est Ivanov. Hein. C'est quelqu'un qui a été formé à l'Académie de Saint-Pétersbourg, mais un personnage qui, bien vite, va montrer un talent très indépendant. Certes, au départ, Ivanov est un artiste très néoclassique. Je vous montre ici un Apollon, Hyacinthe et Zéphyr qui pourrait être réalisé par Bruni ou par Brioulov, ces artistes académiques dans la tradition néoclassique que je vous montrais tout à l'heure. D'ailleurs, dans cette peinture que vous voyez là, le Christ révélé au peuple, on voit un Ivanov qui continue dans un tableau énorme. Un tableau que vous voyez là, un peu comme le Serpent des Reins de Bruni de tout à l'heure, est un tableau monumental énorme, que d'ailleurs Ivanovitch a eu beaucoup de mal à peindre, sans doute parce que Ivanov est un artiste qui a beaucoup changé, je dirais, d'esthétique dans sa carrière. C'est ainsi que quand il commence une œuvre comme celle-là, et dans une esthétique académique, mais puisque c'est un artiste qui a beaucoup rénové son travail pictural, il a cherché, si vous voulez, dans une œuvre comme celle-là, à en permanence la reprendre pour la moderniser. Ça donne ce tableau-là, à vrai dire pas vraiment achevé, sur lequel Ivanov a travaillé quasiment toute sa vie jusqu'à la veille de sa mort. Ivanov, on lui doit par exemple des œuvres telles que celle-ci, des œuvres très étonnantes qui en 1850 évoquent ce que l'on verra à la fin du siècle hein, avec en France les impressionnistes ou dans le nord de l'Europe avec quelqu'un comme Monk par exemple. Hein. On a là quelque chose de très très curieux qui nous montre avec ces jeunes paysans nus dans un paysage auprès de Naples une vue tout à fait étrange où vous le voyez. Le fini n'est pas vraiment réalisé, quelque chose qui, jusque dans la composition, n'est pas sans nous rappeler des gens comme Balthus, bien plus tard. Si vous voulez. On est là, au milieu du 19e, hein. On n'est pas à la fin du 19e, au milieu du 19e, avec un artiste tout à fait particulier, tout à fait singulier. Il y a d'ailleurs encore, dans ce nu adolescent que vous voyez là, où notamment la manière de créer l'arrière-plan et la nature apparaît comme une très grande innovation picturale du temps. D'ailleurs, Ivanov a également donné dans l'art du portrait, je vous montre ici un portrait féminin, dont vous voyez comment la touche nous amène vers des propositions beaucoup plus modernistes que l'on connaîtra en Europe occidentale, mais plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ivanov est vraiment un artiste indépendant, très singulier, très moderniste. Un artiste qui va quelquefois s'intéresser à des éléments particuliers. Par exemple, il dissèque la nature. Voilà des oliviers près d'Albano. Voilà une branche de quelque arbre. Vous voyez comment Ivanov s'intéresse à des morceaux du paysage qu'il va montrer d'une manière clinique, hein, d'une manière qui nous rapproche en quelque sorte des sciences naturelles. On a là vraiment un artiste particulier qui n'est guère classable. Et d'ailleurs, ces œuvres par lesquelles je termine sur Ivanov, daté du milieu du XIXe siècle, nous montre un artiste presque symboliste avant l'heure. Vous voyez ici une rencontre de l'archange Gabriel avec Zacharie, n'est-ce pas ? on est là dans une peinture délavée qui nous rappelle, je ne sais pas, Puvis de Chavannes, Bourdelle, Maurice Denis, enfin des artistes qui vont éclore en Occident, mais à la fin du 19e. Là, on est au milieu. C'est-à-dire qu'on est vraiment devant un artiste complètement moderne, avant l'heure. D'ailleurs, l'œuvre suivante, hein, qui représente Jésus marchant sur les eaux, où vous voyez dans le fond, en ombre chinoise, la barque, n'est-ce pas, avec les apôtres, au premier plan évanescent, des figures graphiques figurant le Christ sur les eaux et Saint-Pierre qui est en train de se noyer devant lui. Bref, on a là une œuvre picturalo-graphique absolument novatrice, dont on ne connaît pas l'équivalent de l'Europe du temps, et qui montre qu'on l'a là avec Ivanov, un artiste complètement singulier, absolument moderne, certainement un des grands noms de la peinture romantique russe. Mais je voudrais terminer cet exposé avec le dernier grand courant qui marque au milieu du 19e la peinture de la Russie du temps et qui est le réalisme critique. Le réalisme critique, il est incarné par Pavel Andreïevitch Fedotov, dont vous voyez ici le portrait, et dont je vous montre quelques œuvres, et on ne se lasserait pas de montrer durant tout le reste de l'après-midi, à mon sens, des œuvres de Fedotov, parce qu'elles sont vraiment extrêmement savoureuses. Fedotov, c'est le Daumier russe, c'est le Hogarth russe. C'est un artiste qui, au milieu du 19e siècle, va tenser, épingler la société russe en en montrant tous les travers. Hein. C'est un artiste qui vraiment se moque de la société de son temps en épinglant les personnes qui l'entourent. Voilà par exemple un tableau qui s'appelle « Le chevalier de fraîche date ». Vous voyez ici un personnage qui se drape à la manière d'un empereur romain dans sa robe de chambre, qui a sur la tête quelques pauvres rameaux pour se faire croire à lui-même et à la servante qui est devant lui qu'il est un haut personnage. Voilà ici une autre œuvre du même Fedotov qui s'appelle « La mariée dédaigneuse ». Vous voyez une grande gigue un peu niaise qui est assise et qui fait quelques minois et qui accepte à peine les avances d'un bosco qui est agenouillé devant elle et qui voudrait peut-être lui proposer sa main. Tout ça dans un beau salon où sur la gauche, vous voyez qu'on se presse pour écouter le résultat de cette entrevue amoureuse. Ici, le colonel fait sa demande. Vous voyez dans un intérieur russe très bourgeois et très comme il faut, une mariée complètement excitée qui virevolte au milieu de la salle dans sa robe blanche bien froufroutante. Alors sa mère essaie quand même de la faire revenir à la normale. Elle l'attire par sa robe pour essayer de la calmer un peu, d'autant que le prétendant arrive. Et vous le voyez là sur la droite, il est là qui attend qu'on le fasse entrer. Et puisqu'il attend qu'on le fasse entrer, il est en train de faire reluire sa moustache. Hein. Le colonel attend pour faire sa demande qui excite d'avance la belle et jeune promise. Mais il y a aussi le déjeuner de l'aristocrate. Fedotov nous amène ici dans le bureau de quelques jeunes aristocrates, n'est-ce pas, qui soi-disant travaillent, mais qui en fait est en train de manger, n'est-ce pas. Et puisque lui qui est censé écrire quelques poèmes dans l'antre du bureau qui est le sien ne veut pas être dérangé, vous le voyez que ici, alors que le domestique va rentrer et que son chien l'en avertit, il s'empresse de cacher toute la nourriture dont il se repaît. Il y a plus triste la jeune veuve, cette jeune femme enceinte qui se désespère dans sa chambre devant le portrait de son mari mort au combat sans doute et dont l'effigie repose derrière elle. Il y a aussi ce tableau que j'aime beaucoup pour ma part qui s'appelle « Encore, encore ». On voit dans quelques datchas un personnage qui est, vous le voyez, affalé sur un siège et qui est en train de faire sauter par-dessus sa baguette son chien. Il le fait sauter et encore, et encore, et encore. On voit là une sorte de scène intime que nous montre Fedotov. Jusque dans ce tableau qui s'appelle « Les joueurs », on est là dans une soirée, peut-être un peu d'ailleurs vodkaïsée, si j'ose dire, sinon avinée, où quelqu'un vient de perdre tout son argent au jeu. Et voyez ce joueur désespéré en plein milieu, n'est-ce pas, du tableau. Les autres plus réjouis, ils viennent de gagner ce que l'autre a perdu. Et je crois que ce tableau-là, merveilleux, hein, par ce Balzac de la peinture qu'est Fedotov, nous montre bien tout l'art à la fois ironique et cruel de ce grand artiste qu'est Fedotov, dont on verrait dans la littérature, sans doute, hein, l'alter ego qui n'est autre que Nicolas Gogol, celui qui, par sa plume, nous montre finalement, littéralement, l'équivalent de Fedotov. Je terminerai en citant Perov, qui est une sorte de Fedotov un peu plus léger, Perov, qui réalise ici cette procession de Pâques, ou ici ce repos des chasseurs. C'est un peu un Fedotov, mais plus tardif que le précédent, et j'allais dire un peu plus léger, moins cruel, plus pittoresque peut-être, enfin pas toujours, parce que Perov est celui, par exemple, qui réalise ses apprentis au travail, qui sont des jeunes garçons ou des jeunes enfants, qu'il, vous voyez, tire une charge plus lourde qu'eux, et c'est enfin Perov qui a réalisé le fameux portrait de Dostoïevski, illustrissime, que vous voyez ici. Vous voyez que notre Fedotov aura une sorte de postérité qui nous amène vers la deuxième moitié du siècle. Mais de cela, nous reparlerons la prochaine fois. Je vous remercie.
Eh bien, bravo et merci. Est-ce que vous pourriez dire quand même une phrase sur la galerie Tretiakov pour bien mettre en évidence l'importance de cette galerie qui est à Moscou, hein? Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots, s'il vous plaît?
Oui, il y a effectivement deux collections d'art russe fondamentales en Russie. Hein. Il y a le musée d'art russe de Saint-Pétersbourg et il y a la galerie Tretiakov de Moscou, qui doit son nom à un homme, à même deux hommes, parce qu'ils étaient deux frères, Tretiakov donc, qui ont beaucoup collectionné au XIXe siècle de la peinture occidentale, mais aussi et surtout de la peinture russe. L'idée de Tretiakov était que cette peinture russe, dont je viens de vous montrer ici un premier volet, valait bien à la peinture occidentale et qu'elle n'avait pas de lieu pour être montrée, pour être présentée. Il a donc, de manière très impulsive, collectionné la galerie Tretiakov, qui a été fondée du vivant même de Tretiakov, avait donc pour but, dès la fin du 19e, début 20e, de montrer, n'est-ce pas, avec des collections très puissantes, largement collectionnées par lui, depuis beaucoup d'autres œuvres sont venues s'ajouter à ce fonds primitif, de montrer cet art russe dont nous venons de voir un premier volet. Hein. Et il s'intéressait évidemment à l'art russe de son temps, du 19e siècle, mais également à l'art russe antérieur. Hein. Vous avez finalement à la galerie Tretiakov, avec Saint-Pétersbourg par ailleurs, vraiment les deux lieux où l'on peut le mieux voir au monde, c'est d'ailleurs assez légitime, hein, cette évolution de l'art russe vraiment très méconnue en Occident.
Voilà, merci. Et donc, pour la partie Saint-Pétersbourg, je rappelle donc que Damien Capelazzi vient au mois de décembre, et sa première conférence, c'est un balayage, ce qu'on peut pas faire plus, pas faire moins, sur le musée de l'Ermitage, puisque je rappelle qu'il va proposer un voyage à Saint-Pétersbourg, donc au mois d'avril 2019. Voilà. Merci.